Laudetur Jesus Christus.
L'euthanasie en discussion chez les députés français. Un projet de loi est examiné aujourd'hui et propose d'autoriser une assistance à mourir aux adultes souffrant de pathologies graves. L'Église prend une part active au débat qui promet d'être mouvementé. Une autre déconvenue pour AstraZeneca, les cas de thrombose seraient bien un effet secondaire rare du vaccin. Plusieurs pays ont donc décidé d'en limiter l'administration sur les sujets les plus jeunes. C'est le cas au Royaume-Uni. Joe Biden défend son colossal plan de relance. Il est indispensable, dit-il, pour garantir la place des États-Unis dans le monde, mais pour le financer, il faudra taxer les grandes entreprises. Et puis le trafic a repris dans le canal de Suez. Son blocage par un porte-conteneurs il y a 10 jours avait tenu en haleine, mais surtout eu des effets immédiats sur le commerce mondial. Aujourd'hui résolu, cet incident a mis en lumière l'importance économique et névralgique des routes maritimes. Éclairage dans notre dossier.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Les députés français replongent donc aujourd'hui dans le débat sur le droit à l'euthanasie. La proposition de loi portée par le député Olivier Falorni instituerait un droit à une fin de vie libre et choisie. Les débats à l'Assemblée nationale s'annoncent donc houleux, Adélaïde Patrignani, et le texte suscite évidemment l'opposition de l'Église catholique.
Oui, Manuela, ce n'est pas le rôle d'un médecin de tuer les gens, s'est indigné Monseigneur Aupetit lundi sur France Inter. L'archevêque de Paris a appelé au développement des soins palliatifs, un avis partagé par Monseigneur Ulrich. C'est de soins, de douceur et d'accompagnement que nos citoyens ont besoin, écrit-il dans un message publié hier. L'archevêque de Lille se méfie aussi de sondages donnant les Français largement favorables à ces évolutions. D'ailleurs, au sein de la société, certains s'interrogent. Pourquoi une journée pour légiférer sur un tel sujet et en pleine crise sanitaire? La proposition de loi suscite également des tensions parmi les élus. Une quarantaine de députés de La République En Marche s'y opposent. L'obstruction parlementaire de quelques républicains a également rendu impossible le vote du texte dans le temps imparti. À eux seuls, ils ont déposé 2300 amendements. Toutefois, la majeure partie de l'hémicycle continue d'appuyer la proposition de loi. Pour rappel, le premier article permettrait dans certains cas à toute personne capable majeure de demander une assistance médicalisée pour mourir par une aide active. Cela va plus loin donc que la sédation profonde et continue autorisée actuellement par la loi Claeys-Leonetti. La France emboîterait ainsi le pas à ses voisins Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, ou encore l'Espagne qui a dépénalisé l'euthanasie le mois dernier.
Merci beaucoup Adélaïde pour toutes ces précisions. Situation toujours inquiétante et délétère en Birmanie où l'armée resserre son étau. Hier, c'est un acteur très célèbre dans le pays qui a été arrêté et emprisonné. Il avait pris fait et cause pour les manifestants pro-démocratie et comme lui, ce sont des dizaines de personnalités qui sont traquées par la junte. L'actualité Covid, c'est l'avis de l'Agence européenne du médicament qui a reconnu que la formation de caillots sanguins peut être considérée comme un effet secondaire très rare du vaccin AstraZeneca. La balance bénéfice-risque demeure toutefois positive, assure l'EMA. Même constat de la part du comité scientifique au Royaume-Uni. En conséquence, Londres a décidé de réserver le vaccin aux plus de 30 ans par précaution. À Londres, Jean Geoffrey.
Le succès de la campagne de vaccination est dû en grande partie au vaccin AstraZeneca fabriqué par le groupe pharmaceutique anglo-suédois. Depuis décembre dernier, plus de 20 millions de doses ont été administrées. Selon les autorités sanitaires, 19 personnes sont décédées sur un total de 79 cas de thrombose associés à une chute des plaquettes qui joue un rôle important dans la coagulation du sang. Cependant, les médecins assurent que les bénéfices de la vaccination restent très largement supérieurs aux risques pour la très grande majorité de la population. Il sera proposé un autre vaccin aux 10 millions de moins de 30 ans qui pourront avoir une première dose dans 2 mois. Moderna a commencé ses premières livraisons, tandis que 3 autres vaccins ont été commandés. Nul doute que la décision annoncée mercredi constitue un revers dans la lutte contre la pandémie dans le monde, car le vaccin AstraZeneca est extrêmement bon marché, 3 à 4 dollars. Le dispositif COVAX sous l'égide des Nations Unies s'apprête à distribuer 2 milliards de doses afin d'assurer un accès équitable à la vaccination dans une centaine de pays à faible revenu. Londres, Jean-Geoffrey, Radio Vatican.
En ordre dispersé, d'autres pays ont emboîté le pas au Royaume-Uni. L'Espagne et l'Italie réservent le vaccin aux plus de 60 ans, la Belgique aux plus de 55 ans. La commissaire européenne à la santé invite plutôt les pays de l'Union à se coordonner, à parler d'une seule voix pour, dit-elle, ne pas nourrir la défiance. Et pour aider à faire face aux conséquences économiques désastreuses de cette pandémie, le G20 annonce prolonger le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Annonce faite hier après un sommet des ministres des Finances et des banquiers du G20 sous la présidence de l'Italie. De fait, de nombreux pays ont vu leur vulnérabilité s'accroître avec la pandémie. D'autres tiennent le cap et limitent la casse. C'est le cas du Bénin, qui avec ses 2,3% connaît la plus forte croissance des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Porto Novo tire son épingle du jeu grâce au secteur agricole. Toutefois, la croissance ne bénéficie pas à tout le monde. Tout de suite, le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ndarika Linglopi.
Les machines maintiennent la cadence. 220 tonnes de coton sont égrenées chaque jour dans cette usine au nord de Cotonou, à Boïko. Avec 2,3% en 2020, le Bénin peut se targuer d'avoir la croissance la plus forte des États de l'Union monétaire ouest-africaine. Patrice Donovou, chef d'usine.
Le coton est un élément important, sinon est un facteur important de la croissance du PIB. C'est le contrôle, l'œil que le gouvernement a dans la gestion des acteurs qui ont aujourd'hui obligation de compte rendu. Et évidemment, le résultat s'ensuit.
Si la croissance s'appuie sur le secteur du coton, au niveau microéconomique, la crise sanitaire mondiale se fait sentir. À Dantokpa, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires divisé par deux.
On vient les poches vides et on rentre les poches vides. Nous n'avons personne pour nous aider. C'est uniquement grâce au commerce que nous vivons pour nourrir nos familles et envoyer nos enfants à l'école.
Mais la commerçante veut y croire. Pour la mère de famille, la campagne de vaccination contre la Covid-19 permettra de faire redémarrer toute l'économie béninoise. Ndarika Linglopi, Cotonou, Radio Vatican.
L'état d'urgence a été déclaré dans l'ouest du Darfour après des affrontements tribaux qui ont causé la mort d'au moins 87 personnes depuis lundi. L'armée soudanaise a été déployée dans cette région déchirée par des conflits ethniques depuis 2003. Les Nations Unies appellent à la retenue maximale après une explosion sur un navire iranien croisant en mer Rouge et dont la responsabilité est imputée à Israël. Selon plusieurs médias, l'État hébreu n'a ni affirmé ni confirmé. Aux États-Unis, Joe Biden a défendu hier son plan d'investissement de 2000 milliards de dollars destiné en particulier à moderniser les infrastructures du pays. Baptisé Build Back Better, traduisé reconstruire mieux, il promet de donner lieu à une féroce bataille au Congrès et notamment au Sénat, où le patron des Républicains promet de le combattre à chaque étape. D'autant plus que pour le financer, Joe Biden a prévu une hausse de l'impôt sur les sociétés, drastiquement abaissée par son prédécesseur. À New York, Loïc Loury.
En 2017, le Congrès américain adoptait le Tax Cuts and Jobs Act, première grande victoire législative pour Donald Trump. En vertu de ce texte, le montant de l'impôt sur les sociétés était passé de 35 à 21%. C'est ce taux que Joe Biden souhaite voir remonter à 28% afin de financer son plan pharaonique. Après les années Trump, la nouvelle administration change donc de cap, mettant aussi d'entraîner la communauté internationale dans son sillage. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, lundi dernier appelait ainsi à une uniformisation de l'impôt sur les sociétés au niveau mondial afin de réduire la concurrence fiscale entre les pays. Une idée qui a rapidement trouvé un écho favorable en France, en Allemagne et même auprès de Jeff Bezos dont l'entreprise Amazon est accusée justement par Joe Biden de ne pas payer d'impôts. Pour Washington, il s'agit de remplir les caisses. L'impôt versé par les entreprises, dit Janet Yellen, est tombé à son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il s'agit aussi en rendant la cause international d'éviter de voir les entreprises américaines plier bagages. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Accord entre Bagdad et Washington. La Maison-Blanche accepte le retrait de ses dernières troupes combattantes d'Irak. La mission des soldats américains et ceux de la coalition internationale anti-Daesh se mue désormais en conseil et formation. Le calendrier devrait se préciser lors de discussions. Les États-Unis qui vont reprendre leurs aides aux Palestiniens via l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, à laquelle Donald Trump avait coupé les vivres. Joe Biden se démarque donc là encore de son prédécesseur et réitère son soutien à la solution à deux États. Israël se dit déçu de cette décision. Et puis avant de passer à notre dossier, cette lettre du pape à l'hebdomadaire catholique espagnol Alpha et Omega qui a exhumé des archives de la basilique du Saint-Sacrement de Buenos Aires. Archives qui montrent que le jeune Bergoglio était inscrit sur la liste des adorateurs de nuit. Le pape s'est dit ému de renouer avec ses souvenirs qu'il partage avec son frère Oscar ainsi que son ancien confesseur. Plus de précisions sur vaticannews.va. Le trafic maritime aux deux extrémités du canal de Suez est fluide à nouveau. L'échouage le 23 mars dernier du porte-conteneur Ever Given, battant pavillon panaméen d'une capacité de 200 000 tonnes et de 400 mètres de long, avait bloqué pendant près d'une semaine cette voie cruciale. Route maritime reliant l'Asie et l'Europe, elle représente plus de 10% du commerce international et au total, 420 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloqués. Et puis l'Égypte aurait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour, selon l'autorité du canal de Suez. Bref, cet incident a mis en relief l'importance des routes maritimes à l'heure de la globalisation, ainsi que leurs enjeux géopolitiques. Je vous propose ce matin l'analyse d'Antoine Frémont, géographe, il est spécialiste des transports maritimes.
Un accident de ce type, rare, il faut d'abord souligner que c'est très rare, nous révèle tout d'un coup notre dépendance par rapport au trafic maritime et montre à nouveau à quel point on est dans un système mondialisé et les porte-conteneurs sont un petit peu le symbole de cette mondialisation des chaînes de production à l'échelle internationale. Si vous voulez, l'accident, ça révèle l'ampleur des flux maritimes liés à l'importance du commerce international.
Les différentes routes maritimes sont-elles plus encore que par le passé aujourd'hui de véritables enjeux géostratégiques ?
Oui, ça c'est clair. Par exemple, on voit bien qu'actuellement, la Chine, en s'affirmant de plus en plus, non seulement comme une puissance économique, mais aussi comme une puissance politique, entend bien avoir des prétentions sur ce qu'elle estime être ses mers intérieures, par exemple les mers de Chine du Sud, et pour contrôler des passages par lesquels beaucoup de navires passent. Là, on a des enjeux géostratégiques extrêmement importants. Bien évidemment, si on prend un autre exemple très connu, c'est celui du détroit d'Hormuz, cordon ombilical pour le passage du pétrole, eh bien, on a un point de passage, un verrou géopolitique qui est extrêmement surveillé. Un autre exemple, c'était le détroit de Bab el-Mandeb qui a défrayé la chronique quand on avait des pirates de Somalie qui attaquaient les navires et ce qui a nécessité la présence sur place de marines militaires, aussi bien de la Chine que des pays occidentaux.
En termes de valeur commerciale, que représentent les routes maritimes pour les pays exploitants ?
Le transport maritime, c'est 11 milliards de tonnes de marchandises chaque année qui transitent. Donc c'est tout à fait considérable et ça montre à quel point ces routes sont un poumon pour le commerce international. Le canal de Suez, c'est une ressource économique de première importance, notamment depuis que le tourisme en Égypte a subi de sérieux revers à la suite des printemps arabes. Donc pour l'Égypte, le canal de Suez est une source de devises extrêmement importante.
Y a-t-il aujourd'hui nécessité de repenser l'encadrement du trafic maritime et la protection des mers ?
Le transport maritime, il a un impact environnemental important. Il représente presque 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, c'est-à-dire l'équivalent d'un pays comme l'Allemagne. L'utilisation par les navires de fioul lourd, avec donc comme conséquence des pollutions locales extrêmement importantes, notamment dans les ports. Et donc là, effectivement, c'est à l'échelle internationale que les régulations peuvent se mettre en place. Alors, par exemple, il y a eu des progrès de fait dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Petit à petit, il y a des régulations à la suite de catastrophes. Ce qu'on peut déplorer, c'est que comme c'est à l'échelle internationale que les négociations se passent, ça prend énormément de temps parce qu'il faut trouver des compromis entre les États. L'Union européenne a joué un rôle moteur pour lutter contre les marées noires et joue actuellement un rôle moteur pour diminuer la pollution des navires et met la pression sur l'industrie maritime pour qu'elle augmente petit à petit ses exigences environnementales.
Voilà, interrogé par Hélène Destombes, le géographe Antoine Frémont était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous attends à 13h pour un nouveau journal d'information vaticane et internationale. Belle matinée à toutes et à tous.